Bonjour, merci d'être avec nous sur cette table ronde donc pour ce jeudi midi. Avant, en préambule, simplement, nous avons la chance d'avoir Delia Sherman sur le plateau. Delia parle anglais et du coup, si vous voulez tout comprendre, il y a des petits casques de traduction qui sont juste derrière pour pouvoir avoir la traduction en simultané grâce à nos amis traducteurs que je remercie parce qu'ils font quand même un super, super boulot. Alors, sur cette table ronde qui est intitulée « Une histoire fantastique », à la vérité, on va s'intéresser au lien entre science-fiction, fantasy, uchronie et histoire, puisque en fait, nous avons quatre auteurs qui jouent avec le passé dans leurs écrits. Et on va s'intéresser un petit peu à toutes ces limites-là. En fait, pourquoi est-ce qu'on réutilise le passé? Pourquoi est-ce que de temps en temps, on bascule complètement dans l'uchronie, par exemple, avec Hugo? Et qu'est-ce que ça veut dire, la question, c'est toujours la question des intentions, au final. Et pas tant de savoir exactement quelles sont les aventures, mais pourquoi est-ce qu'on utilise de tels procédés? Autour de la table, alors complètement sur votre droite, nous avons Ariane Gélina, qui est donc auteure québécoise. Autrice.
Non, c'est le mot officiel des Utopiales, autrice. Okay, Jeanne Marotoké.
Ça marche. Donc titulaire de plusieurs prix, et puis on va parler notamment de la série Les Villages Assoupis. Où vous nous raconterez un petit peu comment vous l'avez fait, pourquoi vous l'avez fait, on saura tout. À ses côtés, Anne Larue, universitaire française, prof de lettres, également historienne de l'art français, avec le roman La Vestale du Calix et le nouveau... La fille geek, voilà, qui vient tout juste de paraître. À ses côtés, Deliana Sherman, qui est donc auteur et éditrice, titulaire du Myopetic Fantasy Award. Voilà, ça vous donne mon niveau d'anglais en termes d'accent. Et on parlera notamment d'une trilogie, Brazen Mirror, ou un livre. Donc, voilà, on parlera. Et livre qui se déroule dans l'Angleterre du XIIIe siècle. Et puis, à ses côtés, Hugo Bellagamba, ancien directeur artistique des Utopiales, et qui, lui, a particulièrement joué avec l'histoire, avec notamment le roman Tancrède, mais aussi L'Origine des Victoires et tout un tas d'autres romans qui s'intéressent à notre passé, pour mieux, évidemment, parler de notre présent. Alors, on va d'abord voir un petit peu comment chacun a fait sur ses liens avec l'histoire dans ses romans, et puis après, on passera un petit peu aux questions générales. Ariane, dans Les Villages Assoupis, est-ce que vous pouvez nous les présenter et comment est-ce que vous avez travaillé?
Bien sûr, puisque l'histoire va se décliner sous différentes formes dans à peu près tous mes livres. Là, j'en suis rendue à 6 livres. Et puis, Les Villages Assoupis, alors c'était une trilogie sur les villages fantômes du Québec qui est parue entre 2012 et 2014. Et puis, il faut savoir qu'on a une réalité singulière avec les ruines chez nous, alors avec la temporalité, la triple temporalité. J'aime bien beaucoup jouer avec, avec les ruines, est-ce que ça permet le passé, le présent, le futur, et puis les investir. Et au Québec, nous avons plus d'une trentaine de villages abandonnés qui découlent souvent d'une mono-économie. Par exemple, un chantier minier qui va donner naissance à une ville pendant quelques décennies et par la suite, cette ville-là va être complètement rasée. C'est quand même une spécificité au Québec avec la mémoire, et la mémoire est au cœur de ma trilogie aussi. Mais surtout, comment on nie la mémoire de ces existences-là, des gens qui ont vécu, qui sont nés dans ces villages et ensuite dont il ne subsiste presque rien. Parce qu'en tant que... J'aime beaucoup l'exploration urbaine. Il y a des parallèles à faire avec les villages fantômes, parce que parfois, on peut aller les explorer. Mais malheureusement, pas assez à mon goût au Québec, puisque comme je viens de le dire, on les a souvent détruits. Alors, il s'agit d'ouvrir l'œil pour retrouver ces ruines-là enfouies sous le feuillage, dans les forêts, où la nature a repris ses droits. Et c'est un petit peu ces deux pôles-là qui sont au centre de la trilogie, dans laquelle on va suivre des personnages qui sont souvent tourmentés. C'est une trilogie fantastique, tout comme la plupart. J'écris essentiellement du fantastique suivi par la science-fiction et du roman policier. En nouvelle, j'aime bien la science-fiction aussi. Mais dans le cas de la trilogie dont on parle, c'est du fantastique. Et puis, on va visiter avec les narrateurs ces villages abandonnés du Québec. Et il va y avoir aussi des éléments historiques, comme des extraits de journaux. Et ces éléments-là, par exemple, ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup, même si lorsqu'on me dit, ah, alors Ariane, tu vas enseigner le récit autobiographique cette session-ci, je dis, oh non, alors je préférerais pas, mais pourtant, comme auteur, ce sont des formes auxquelles qui m'interpellent très souvent, comme les mémoires dans mon plus récent livre qui vient après la trilogie des villages assoupis, puis qui s'appelle Les cendres de Sedna, qui se déroule également dans ce cas-ci sur 3 siècles avec un aspect mythologique. Alors, je vais aller puiser dans le temps, ça peut être les ruines, ça peut être aussi encore plus un passé encore plus séculaire que ça, avec le début des temps, les mythes et puis ces éléments.
Alors, qu'on comprenne bien, les villages détruits dont vous parlez, oui. C'est à peu près quelle date, quelle période?
Ça dépend des villages. On essaie souvent des années 70 et 80. À notre époque actuelle, c'est moins facile de faire détruire, heureusement pour l'histoire avec un grand H. C'est moins aisé de faire disparaître comme ça les villages. Mais il y a eu une sorte d'acceptation passive dans les années 70 et 80 au Québec. C'était aussi l'époque des chantiers hydroélectriques qui se sont retrouvés à tasser les Premières Nations sans aucun scrupule en disant « Alors, ce sont vos territoires ancestraux, on construit des barrages, allez ailleurs. » Alors, ça participait du même mouvement. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement fascinant. Et puis, parce qu'également, souvent, on pense à Québec, Montréal, Québec, peut-être Tadoussac avec les baleines, si on s'intéresse à ces grands cétacés-là. Mais je voulais investir aussi l'arrière-pays, comme on dit, l'intérieur des terres. Et qui va comprendre souvent ces ruines, ces vestiges, ces souvenirs qui gagnent à être, j'oserais dire, exhumés, mais le terme est un peu négatif, mais pour à travers des récits fantastiques, comme j'aime le faire.
Ouais. Dernière question pour comprendre, ce sont plutôt des villages de Québécois, on ne parle pas des Premières Nations.
Ça dépend lesquels. Il y a certains villages de Premières Nations qui ont été honteusement engloutis, encore une fois, pour construire des barrages. Je pense à Windigo ou à Chisazibi. Et puis, les habitants ont été délocalisés de force. C'est même arrivé à 2 autres reprises. En fait, je nommerai pas tout. Il y a au moins 4 villages amérindiens comme ça qui ont été déportés pour que le niveau de l'eau des barrages soit rehaussé. Alors, c'est très discutable comme façon de procéder. Effectivement, et ça aussi, ça se retrouve dans mes écrits, dans lesquels sont présents, que ce soit nouvelles ou romans, les Premières Nations, parce que on dit identité québécoise, on dit forcément identité des Premières Nations, et ça inclut leur mythologie.
Anne?
C'est vrai, j'y pense à un roman qui s'appelle « Emily Dickinson is dead », dans lequel on a ce thème du village englouti qui a détruit les vies et qu'on voit encore sous l'eau comme un miroir. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la littérature américaine et québécoise. Alors oui, donc moi, ce que j'ai essayé de faire, bon, moi l'histoire est très importante, mais c'est une histoire qui tente de faire sauter quelque part, alors c'est très local, hein, très franco-français si j'ose dire, le verrou du 19e siècle qui a changé complètement notre vision des choses. C'est le siècle le plus arriéré, le plus sexiste, le plus traditionnaliste, le plus épouvantable que la Terre ait jamais portée. Et tout ce qu'on ne sait pas et qu'il y a au-delà, c'est comme s'il y avait un énorme barrage et au-delà, le monde, l'infinité des choses. On ne sait pas que les femmes étaient, par exemple, des combattantes parce qu'on croit au 19e siècle que c'était comme ça, alors voilà. On ne sait pas que ça n'a pas toujours été la pauvre bourgeoise séparée de ses compagnes et placée sous la tutelle d'un homme qui avait tout pouvoir sur elle. On ne sait pas tout ça. Donc, l'histoire, pour moi, c'est un enjeu de revenir à une espèce de relativité très lointaine d'un monde qui serait construit sur tellement autre chose. Et c'est pour ça que j'ai une passion particulière pour la préhistoire, disons, le néolithique, toutes ces choses-là, parce qu'il y a aussi ces discours abominables des préhistoriens. Alors, on voulait faire un bouquin avec un copain, lui, il faisait le racisme des préhistoriens, moi, le sexisme des préhistoriens, et puis on aurait étudié ça, c'est-à-dire cette espèce de discours délirant sur le passé, comme quoi c'était des cultes, les dieux, nanana, toujours des valeurs masculinistes, alors que, par exemple, à Lascaux, il y a des pas d'enfants qui cavalent partout. Alors, bien sûr, ce sont des garçons, bien sûr, c'est une initiation. Et si c'était un truc où les parents y mettaient leur môme à l'époque parce que c'était à une température d'environ 16 degrés et que c'était quand même mieux que les moins 30 qu'il y avait dehors, personne n'a posé les choses en ces termes. Donc, il me semble que c'est non seulement l'histoire qui est en jeu, mais aussi la vision d'aujourd'hui passée par-dessus le filtre immonde du 19e siècle, cette crevure du 19e siècle, hein, disons-le, avec carrément, enfin, il faut y aller carrément avec le langage peut-être un peu fort, mais bon, tant pis, on est là pour manier les mots, hein, chacun reprendra ce qu'il faut par rapport à la violence extrême de mon langage, mais il me semble quand même que l'enjeu de l'histoire, c'est d'abord ça, c'est-à-dire revenir à une vision où le monde n'était pas comme on croit qu'il est aujourd'hui, et il me semble que c'est l'enjeu fondamental.
Alors justement, Delia, l'Angleterre, le XIIIe siècle.
Well, not really. That was my first novel, and it's not the one that was translated into French. But I just like history. I find myself a little at sea in the 20. I found myself a little at sea in the 20th century. The 21st century has me completely flummoxed. I also believe very strongly that we cannot understand where we are unless we understand where we've been. So I have dealt a lot with European history. I'm working on a novel now set in 19th century France, during the siege of Paris. I have written a book that was on the that was set on the eve of the French Revolution. That was my second book. I like looking things up. I like being a scholar. I've written about the American Civil War. That's the French book that the book that has been translated into French is Labyrinthe de la Liberté. And I find that I can deal better with the modern age if I look at it from behind. And I think that is mostly what I do, is that I look at the roots of some of these things that are bothering us now, the roots of sexism. Of course, I don't think about that. I'm thinking about the story and the characters, but I am researching as closely as I can the kind of society that they lived in, and I know now, having written several novels, that I am writing a modern novel. I'm writing about now, but I'm doing it from a distance because I think that it is sometimes easier, it's certainly easier for me to deal with things from a distance. And I think sometimes it's easier for people to read them as, from the distance of time and space, and having magic in there doesn't hurt any at all.
Hugo, même question. Alors, tu t'es souvent frotté à l'histoire. Je pense évidemment à Tancrède, je pense à l'origine des histoires et aux autres. Pour quelles raisons et comment tu l'as fait ?
Alors, c'est une vaste question. D'abord, je tenais à dire que moi, j'adore le 19e siècle. C'est un siècle absolument fabuleux.
Il y a quand même effectivement quelques...
Alors, il y a quelques petits trucs, le début des syndicats, l'invention de la République, la démocratie, la liberté...
Non, c'est bien avant.
Voilà, oui, mais en tout cas, il y a quelques petits détails, les révolutions scientifiques, enfin, tout ça, c'est un petit détail, mais je l'aime pour les mêmes raisons que toi, parce que c'est une crevure. C'est un siècle d'une extraordinaire violence aussi, et c'est un siècle où... Aussi, il ne faut pas l'oublier, et je rebondis sur ce que disait Anne avant de répondre à ta question, c'est le siècle de l'invention de l'histoire. En tant que discipline scientifique, comment on écrit l'histoire, c'est quelque chose que l'on commence à réfléchir au 19e siècle.
Mon collègue a raison.
C'est aussi le siècle où naît l'anthropologie, l'étude des autres sociétés, et c'est le siècle de la colonisation, ne l'oublions pas. Donc c'est une crevure... Mais c'est une crevure qui porte en elle énormément d'outils intellectuels dont nous avons hérité. Alors ce genre de crevure, il faut quand même l'étudier. Il faut quand même la connaître aussi. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est le siècle aussi de tous les abus, etc. Mais c'est un siècle justement d'une extrême richesse que les auteurs ont la capacité de réinventer dans la fiction et d'en montrer à la fois les qualités et les défauts. Et d'ailleurs, c'est vraiment mon siècle préféré. Et même s'il m'est arrivé d'écrire sur d'autres périodes de l'histoire, c'est souvent par le prisme des historiens du 19e, parce que les historiens du 19e avaient une manière de raconter l'histoire qui était très édificatrice. On racontait, on reconstruisait complètement. De toute façon, comme je le disais dans une autre table ronde avec un certain Jérôme Vincent il n'y a pas longtemps, chers auditeurs, chers amis, l'histoire n'existe pas. L'histoire objective n'existe pas. Il y a les faits vérifiés, scientifiquement établis, il y a les archives, il y a ce qu'on appelle les corpus, les sources historiques, mais tout le reste, c'est de l'interprétation. Même la manière dont on écrit l'histoire aujourd'hui, la socio-histoire et ses ambitions scientifiques ne sont pas prêts, les socio-historiens ne sont pas prêts d'atteindre l'objectivité. Ce sont des méthodes statistiques différentes, etc., mais l'histoire objective... est une sorte d'idéal inaccessible pour l'être humain, pour les sociétés qui se pensent à travers l'histoire, qui s'imaginent à travers l'histoire. Donc je te réponds, du coup, pourquoi en tant qu'auteur de science-fiction, moi j'aime l'histoire ? Eh bien pour cette raison-là, parce que à mon avis, les sociétés sont les seuls véritables personnages de la science-fiction. Ce qui m'intéresse évidemment, et d'ailleurs on me l'a souvent reproché, hein, parfois mes personnages pris individuellement sont un peu fades, un peu froids, un peu trop cérébraux, alors que je suis quand même, moi, plutôt dans l'émotion, dans le ressenti quand j'écris, mais malgré tout, c'est vrai que mes personnages ne sont pas les plus, voilà, les meilleurs personnages qu'on puisse trouver, c'est vrai, mais parce que pour moi, le vrai personnage, c'est l'ensemble de la société. Et c'est toujours comme ça que j'ai vu la science-fiction, comme une littérature qui prend la société comme un personnage et qui peut réinventer son histoire, son passé, ses valeurs, etc. Et voilà pourquoi j'ai toujours travaillé sur l'histoire. J'essaye de faire de la science-fiction une sorte de jeu purement spéculatif, très libre, sur les sociétés, ce qu'elles sont, comment elles se pensent, comment elles se rêvent, et parfois bah, comment elles se révèlent terriblement misérables, enfin, pleines d'inégalités et de douleurs.
Delia, vous voulez intervenir ?
One of the reasons that I came to France for a year is because I'm working on this book, and I want to be able to read the memoirs. I want to be able to read the journals of the period that I don't really have access to in New York, because that to me is the real history, not what is written 10 years afterwards or 50 years afterwards, which is interpretation and is usually written by the winners, or trying to cover their bottoms in some way or another. But this is what people experienced at the time and were writing letters to each other, and that's the history that my characters were living. They did not understand the big picture. They could only see this much of it. And so that is what I am very interested in writing about.
Oui, si les lions racontent leur histoire, c'est pas la même histoire que celle que raconteraient les antilopes. C'est bien de l'avoir dit, il était temps que ça sorte, effectivement, et que ce soit dit de façon claire. Et c'est vrai que dans les travaux que j'ai faits par ailleurs, les essais, disons, par exemple, Histoire de l'art d'un nouveau genre, j'ai essayé de réécrire toute l'histoire de l'art par rapport au prisme du genre. Ça ne veut pas dire du tout que c'est l'histoire des femmes, rien à voir. Alors l'éditeur, naturellement, voulait que ce soit l'histoire des femmes, mais on a été assez fine pour contourner ces dictates. Et en fait, c'est l'histoire du genre. Par exemple, c'est l'histoire de Delacroix, homme s'il en fut, mais vaincu du côté du genre, car il est du mauvais côté du genre. Il est du côté de la représentation féminine, du côté des femmes voluptueuses, de l'Orient, de tout ce que vous voulez, par opposition à David, qui lui a une carrière brillante, parce que lui, il peint le bonhomme Napoléon debout sur son cheval, en train d'attaquer, etc. Donc, c'était ça un petit peu que je voulais rajouter, ce que vous avez dit de très intéressant, effectivement. Qu'est-ce que l'histoire des vaincus ? Parfois, c'est intéressant quand on pense aux Bretons. Les Bretons, c'est les vaincus de l'histoire, et pourtant, on ne se souvient que d'eux en matière de Brocéliande, de roi Arthur et de Morgane. Donc parfois, il y a des revanches. Hein. Malgré l'historiographie, ce crime impuni, dirais-je, puisqu'il n'y a pas d'auteur, hein, les fameux historiens, ils sont dissimulés dans l'ombre, ce ne sont pas des gens qui posent. Un auteur est responsable de sa parole, mais si c'est un historiographe, il disparaît dans les limbes du mystère et il n'est pas responsable de sa parole.
Là, on parle du lien avec l'histoire. Est-ce que, en tant qu'auteur, quand vous attaquez une période historique, c'est une manière aussi de se la réapproprier ? Qui veut répondre ? Ariane ?
Oui, c'est certain. Puis je mentionnais tout à l'heure que les cendres de Sedna, mon dernier livre, s'étale sur 3 siècles. Alors ici, on est du 19e au 21e. Et puis forcément, que ce soit comme lectrice ou professeur avec un E, je fais un petit clin d'œil à table ronde qui avait lieu tout à l'heure. Alors ce sont des époques que je gagne, que j'aime beaucoup connaître le plus possible. Alors, c'est l'occasion de le faire, mais j'ai toujours vu l'écriture comme ça. J'ai un léger, je vais mettre des doubles guillemets, côté pédagogique. Lorsque j'écris, j'aime bien apprendre des choses à mes lecteurs, que ce soit pour les lieux. Les lieux sont au cœur de ma démarche, mais également pour la temporalité, forcément. Et du même mouvement, je me plonge, moi aussi, je me replonge dans ces époques-là. Et souvent, je vais avoir tendance à aller dans des lieux qui ont été très peu explorés par les historiens. comme dans le dernier projet, j'étais dans un tout petit village qui s'appelle Tête à la Baleine, même pas 300 habitants, mais pas accessible par la route, seulement par bateau. Et j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour trouver de rares archives, parce qu'en plus, cet endroit-là du Québec a été longtemps inhabité. Il y avait presque des légendes en disant « Non, territoire hostile, faut pas s'installer là. » Alors, je voulais en savoir un peu plus, et ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais je trouve ça extrêmement stimulant. Et ce côté stimulant-là, j'ai envie de le faire vivre à mes lecteurs.
Anne?
Oui, ce qui me frappe, je me demande si tout le monde est prof. Parce que effectivement, Ariane est prof, je suis prof, Hugo est prof, vous, je ne sais pas. Ah, your teacher, she's a teacher too. Donc, est-ce que ça ne serait pas lié, s'il n'y aurait pas un lien étrange d'un seul coup, entre, je ne sais pas, notamment pour toi, est-ce que tu n'as pas envie de montrer aux gens des choses par rapport à l'histoire? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une volonté pédagogique? Moi, la volonté pédagogique est énorme, à tel point que mon premier roman, La Vestale du Calix, c'était uniquement un truc pédagogique au départ. C'est-à-dire on avait décidé de faire connaître et la littérature de l'imaginaire et la littérature classique à nos étudiants et étudiantes, et j'avais écrit ça au départ uniquement dans le but de créer un livre des Solus qui finalement n'a jamais vu le jour, où il y avait tout le temps des petites questions, qui c'est Sclarmonde, qu'est-ce que c'est ça, etc., de façon à un mode ludique de découverte dans la foulée du jeu vidéo sérieux, hein, si on veut. C'était ça, le travail. Et ça continue à l'être dans La Fille Geek grâce au support du site internet du journal Le Vilain Petit Canard, où tout est expliqué dès qu'il y a quelque chose d'un peu mystérieux. On a carrément mis des petits signes dans le texte pour envoyer notre soi-disant jeune lecteur au site. Voilà, donc je pense que la pédagogie, c'est plus important qu'elle en a l'air.
Well, I actually write children's books. The book that I have had translated into French is a Livre de Jeunesse, and it's about the year right before the American Civil War. And to a certain extent, I was writing it because I found when I was doing research that that many of the slave narratives, it's set in the South, in the American South. That many of the slave narratives, that when you're looking about runaway slaves, there were several that said blonde and blue-eyed could pass as white, when these people had escaped, and that made me think that even that slavery was not only a racial construction, but it was also a social construction, and that race is not only something that you show on your skin, but is something that the culture puts upon you. And I really wanted to have, I took a white character back in time, and because of a certain number of events, she was mistaken for the bastard child of the son of the family, and was therefore put in the slave quarters and needed, even though she was white, she endured the life of a slave. And for me, that was a way to understand my mother's family's history, because my mother was Southern and her family had been slave owners. And she was very racist because she had been brought up by, you know, people who really did consider themselves to be biologically superior to anybody who didn't look like them, and I was brought up in New York, so this did not make any sense to me because I was living in a society where everybody was very different, and I could see that that was not true. So I was coming to terms with my own family history, with my feeling about being a person who is living in American society, which has been deeply, deeply scarred by slavery and racism of that particular kind. And so the only way that I could come at it was for me to go back to the past and also to do it in public in a book, so that other people who didn't understand could possibly take the same journey I had taken. And that was one reason that I wrote that book, and I think that it's also one reason that it got translated into French, because it's one of the most political books that I have written in a quiet way.
Hugo?
Oui, sur le rapport à l'histoire, je rejoindrai les deux, c'est-à-dire que pour moi, évidemment, alors la dimension pédagogique, oui, elle est là, mais c'est plus, j'essaye de donner, je vais paraphraser Estelle Blanquet, qui est l'une des très bonnes modératrices aussi et une des participantes et didacticiennes des sciences qui est présente aux Utopiales, c'est une envie de créer un désir d'histoire, c'est-à-dire un désir de se réapproprier l'histoire dans l'esprit du lecteur. C'est-à-dire que j'écris des uchronies, donc on sait très bien que de toute façon, c'est pas de l'histoire au sens académique du terme, évidemment. Mais le fait de montrer et de faire lire des uchronies permet au lecteur, dans le meilleur des cas, quand ça marche, de se réapproprier la matière historique, de comprendre à quel point l'histoire est au fond une question d'interprétation, de référentiel. Ça dépend d'où on la regarde, de quel point de vue on se place. Je pense à l'histoire populaire des États-Unis, par exemple, qui remet en cause énormément de certitudes qu'on avait. Et ça, c'est un point, évidemment, qui est très fort dans mon travail. Mais il y a aussi, je rejoins ce que disait Delia, il y a aussi la dimension psychologique qui est très importante. Tancrède, qui est une uchronie sur la première croisade, n'est pas que une uchronie sur la première croisade, c'est aussi un projet familial. C'est aussi un hommage à mon grand-père, qui était chef d'orchestre, qui était au XXe siècle, l'un des redécouvreurs de la musique baroque, et notamment, il avait contribué à remettre en musique un compositeur provençal complètement oublié qui s'appelait André Campra, et qui avait écrit notamment, qui avait joué un opéra Tancrède, hein, à l'époque de l'Europe galante au XVIIe siècle, au début du XVIIe, et c'était une volonté de me réapproprier ça et de montrer à mon grand-père qui aurait voulu que je sois musicien. J'ai jamais été capable d'être musicien. Il m'a fait faire du piano, j'étais minable. De la flûte traversière, j'étais complètement minable, médiocre, enfin consternant. De la guitare, j'en ai fait 3 mois. J'ai même essayé le triangle, ça n'a pas marché, alors que j'adore la musique. Et du coup, il y avait cette déception chez mon grand-père. Et je voulais lui rendre hommage. Et donc, le Tancrède d'Uchronie, c'était le Tancrède en réponse au sien, au Tancrède d'André Campra. Et ça m'a permis... Voilà, une résolution psychologique du rapport que j'avais avec ma famille, qui était très important. Donc il y a aussi ce côté-là dans les projets. Et donc quand on parle d'histoire, il faut se méfier, parce que l'histoire familiale n'est jamais très loin de l'histoire en tant que telle. Et souvent, on a les prismes de la famille qui nous reviennent et dont on ne se rend pas compte. Certains points de vue dont on hérite et qu'on peut retravailler dans nos récits.
Anne. Oui, ceci dit, je dirais que là, c'est vraiment un point de vue, c'est une chance d'homme ou une malchance, je ne sais pas. Les filles, tout le monde s'en fout, donc il n'y a aucune pression familiale sur quoi que ce soit. Personne ne demande à la fille d'être ci ou ça. Et du coup, on peut s'approprier, enfin, il y a un côté libéré, délivré, paradoxal, en ce sens qu'on peut s'approprier absolument ce qu'on veut sans avoir aucune pression familiale. C'est un peu ce que disent les guerilla girls en disant, ah, c'est merveilleux, être femme au musée, être femme artiste. On peut faire vraiment ce qu'on veut, tout le monde s'en fout, mais au moins, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc c'est quelque chose d'un peu paradoxal, mais le poids familial, ouais, moi je l'ai pas, hein. Alors là, zéro, ouais, moi, de zéro.
Ma sœur avait quand même, on s'en foutait évidemment, mais ma sœur avait quand même le même poids familial. Elle a essayé de faire du violon pendant des années, ça a été l'horreur. Elle avait des cours de violon tous les matins de 8h à midi pendant les vacances.
Mais là tu parles pas du drame
familial.
Elle
est devenue comédienne.
Tu parles du drame de la musique. Les parents qui ont voulu être musiciens et qui embêtent leur môme. Moi j'ai mon neveu, il a dû jouer du trombone de force aussi. Oui, bon, ça c'est autre chose, c'est pas très bon. On pourrait en parler ailleurs.
Pour revenir à l'histoire et au roman, on voit bien comment ça peut éclairer votre propre histoire. Ça peut aussi peut-être éclairer, on en parlait tout à l'heure, l'utilisation du passé pour mieux éclairer notre présent et notre société. Est-ce que vous avez fait ça dans vos romans? Par quel biais avez-vous utilisé l'histoire pour mieux nous parler d'aujourd'hui? Qui veut
J'y vais. Ouais, vas-y. Ouais.
Well, I don't think we are after all people of the 20 or the of, I mean we were all born in the 20th century, most of us. So we cannot help but be who we are. We have our own familial histories, we have our own social histories. You can and we are interested in the things that we are interested in. We are interested in the world changing too fast for us, and possibly some of us are going back to a time when things changed more slowly. Some of us, certainly in America, in the current political climate, feel very helpless. We feel as if history is happening to us. And so the book that I'm writing now is very much about people to whom history is happening, and they respond to it in a bunch of different ways, but they don't have any control over the fact that the Germans are bombing Paris for the first time out of many, and that history repeats itself. So I think that it is impossible not to write a modern novel. It is impossible not to write a book that is about all of the history that we know, that the reader possibly knows about, in order to get to the moment that you want to talk about.
Oui, c'est tout un travail de mémoire qui est fait là. Je l'ai évoqué un peu tantôt. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de mettre au jour des mémoires qui ont été voilées, qui ont été un peu honnies, comme lorsque, je repensais, on en parlait des villages engloutis, par exemple. Il y en a même un qui a été englouti avec l'Église, et il y a un mythe qui dit que si on entend bien les soirs de pleine lune, là, on va entendre les cloches sonner. Alors, je ne les ai pas entendus encore, mais je suis allée quelques fois. Alors, ça, c'est tout un aspect. Et puis, c'est surtout de puiser dans ces mémoires qui ont été voilées, qui sont plus difficiles à appréhender pour les amener au grand jour, qui va m'intéresser personnellement, et de travailler, je le mentionnais brièvement, constamment sur cette triple temporalité, passé, présent, futur, dans les écrits, qui fait une passerelle très, très naturelle, à mon sens, et qui permet de rassembler tout ça, de revitaliser, et surtout ce qui a été, comme je le mentionnais, honni, et puis qui a été enfoui, et puis qu'on se dit, il faudrait vraiment faire un travail un peu d'archéologue. Ce mot-là également, je pense qu'il est important, aussi, le travail d'archéologie.
Anne?
Oui, moi je dirais que je suis en train de... Enfin, j'ai bricolé une espèce de chronologie historique. Alors, actuellement, c'est l'ère patriarcale. Elle va finir à être remplacée par l'ère cyborg. Et ensuite viendra l'ère méga-vide. Mais écrivons ça avec V-I-D-H, de façon à ne pas décourager le lecteur trop vite. C'est un peu l'idée. Donc, cette espèce de construction, elle a évidemment un rôle à la fois ironique et critique, puisqu'on va vers, d'après moi, un monde sans énergie, d'un très grand appauvrissement général. Enfin, bon, après, on construit comme on peut le truc. Mais disons que la construction comme ça, ça donne un côté de démurge joyeux, si j'ose dire, un peu post-apo et apocalyptique en même temps, où on se trouve un peu comme un chef d'orchestre à essayer de trouver des moyens, utiliser vraiment l'histoire pour créer quand même une critique ironique du monde contemporain. C'est quand même l'idée, t'as raison, enfin, c'est évident qu'on ne fait pas ça uniquement pour que tout le monde ait son UV à la fin de l'année, hein. C'est pas uniquement pour ça.
Oui, la critique ironique du monde contemporain, moi je souscris tout à fait. Je crois que je ne peux pas écrire un roman ou même une nouvelle, hein, s'il n'y a pas l'influence du présent et la volonté de parler du présent. Mais après, il y a ce qu'on fait passer dans son texte dont on ne se rend pas compte finalement. C'est-à-dire qu'il y a le sujet apparent, puis il y a le sujet derrière. Il y a ce qui passe et qu'on ne dit pas, ce qui passe sous les mots, ce que Gérard Klein, ici, au premier rang, appelle les subjectivités collectives, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on transmet d'une société qui vient par nous. Et quelque part, tout roman de science-fiction, tout texte de science-fiction parle du présent, on le sait bien. Maintenant, ici, je ne fais pas injure au public des utopiales, vous savez ça depuis très longtemps, vous qui êtes un habitué des utopiales, la science-fiction n'est que la littérature du présent, toujours. Et alors, l'histoire, eh bien, permet de faire ce pas de côté, ce décalage, qui permet de dire des choses. Alors, je trouve que, par exemple, moi, ce qui me touche aujourd'hui, mais j'ai du mal à le rendre express, à l'exprimer comme ça, mais ce qui me touche aujourd'hui, il y a deux choses que je disais ce matin avec toi, c'est la place des religions, le retour ou l'importance de la religion dans l'identité, qui est très fort, et qui, moi, m'a guidé dans l'écriture de Tancrède, hein, c'est évident, hein, c'est une question. Et puis, la place des femmes, hein, puisqu'enfin, on est dans un monde, alors certes, peut-être un monde angoissant, décliniste, enfin, le déclinisme, à toutes les époques, il y en a un, hein, de toute façon, mais qui remet enfin en question... et qui ose mettre sur le tapis le rôle des femmes dans la société, la place des femmes. Alors, il y a le combat féministe, hein, évidemment, mais il y a aussi d'autres combats qui peuvent être menés. Et moi, cette place des femmes, eh bien, elle m'interpelle. Effectivement, je me dis comment on peut avoir une société qui progresse à ce point et malgré tout qui reste arriérée et en retard sur la place des femmes. Alors, j'ai essayé de répondre à cette question dans l'origine des victoires, c'est-à-dire essayer non pas de changer l'histoire, mais de la revisiter en donnant la plus grande place possible aux femmes. Mais eh bien, ces femmes agissent sur l'histoire de façon secrète, de façon très subtile. Et derrière l'histoire faite par les grands hommes, il y a surtout l'universalité du monde protégée par les femmes. Et c'était le projet de l'Origine des Victoires, directement. Et je pense que je n'aurais pas écrit l'Origine des Victoires si je n'étais pas dans un monde où, justement... Alors, ce qui est intéressant, c'est que la science-fiction, à mon avis, se saisit des choses qui frémissent en émergence. Donc je pense qu'elle est capable de voir ce qui est en train d'être gagné. Et je, bon, voilà, il me semble que, enfin, je suis quand même optimiste sur cette question-là. Je pense qu'il y a un combat qui est en train d'être gagné.
Anne ?
Je crois qu'il a de bonnes raisons de l'être parce qu'il a été non seulement acteur de ses romans, mais également acteur des Utopiales, d'une façon qu'il convient quand même de saluer. Moi, quand je suis arrivé ici en 2011, il aurait fallu que le collectif La Barbe soit là pour dire mais c'est pas possible, que des prix aux hommes, pas une femme, etc. Et puis si les choses ont évolué, c'est bon, il y a beaucoup eu d'autres acteurs et actrices, hein, je dis pas que c'est uniquement toi, mais enfin tu as joué un rôle relativement fondamental et qu'il convient quand même à un moment ou à un autre de souligner dans le fait que maintenant on arrive à un monde où c'est beaucoup moins crispé sur le masculinisme triomphant aux Utopiales, bon, dans ce petit monde, cette petite bulle des Utopiales. Il faudrait que ça se répande ailleurs si tu as la force, mais c'est déjà ça, c'est déjà bien.
Je rebondis sur ce que disait Delia, elle commençait à manier le concept d'histoire en direct, qui est un concept qui est né avec la chute du mur de Berlin et la place Tiananmen, cette idée que nous vivons l'histoire, en fait, nous vivons l'histoire en direct tout le temps grâce aux chaînes d'information continues. Je voudrais rentrer dans votre cuisine d'écrivain. Est-ce que finalement écrire sur l'histoire ou même écrire des romans sur notre société, c'est pas aussi non pas arrêter la marche du monde, mais la réfléchir, la cadrer, vous voyez, essayer de la resserrer? Question vaste, hein. je suis un peu vachard. Hein. Allez Anne, vas-y.
Donc tu veux dire, alors ta question c'est...
C'est la question de l'histoire en direct, puisque du coup vous faites des romans sur l'histoire,
c'est
très bien,
le problème.
Mais nous vivons dans un monde où il se dit, alors avec plein de guillemets, que nous vivons l'histoire en direct par cette espèce d'instantanéité des choses. Quoi.
Tu poses le problème en fait du roman à thème, si on peut dire, enfin, c'est-à-dire le fait que par exemple, bon, si on se saisit de quelque chose de concret, d'un événement concret, qu'est-ce que ça va donner comme histoire? Si par exemple on se saisit du problème, des migrants aujourd'hui, écrire un roman directement sur les migrants aujourd'hui, est-ce que c'est possible? Non, il est évident que ça passe par des filtres. Et si par exemple, bon, moi j'ai été confronté à la question de la transidentité et ça s'est passé par un très long filtre où effectivement après les humains se distinguent par rapport à des signes qui ne sont plus homme-femme mais autre chose, et donc c'est retravaillé, c'est redigéré, etc. Je me demande dans quelle mesure on pourrait faire un roman ou une nouvelle même supposée plus rapide dans la publication, etc., sur un thème hyper brûlant, la guerre, je sais pas, enfin j'arrive pas à trouver des exemples, là j'ai l'esprit complètement vide, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est, je crois que c'est ça le problème. Moi je crois qu'on peut pas, faire un truc qui soit écrire à thème, c'est roman à thèse, pas à thème. Un roman à thèse, c'est toujours très ennuyeux, enfin, il me semble, hein, c'est pas facile. Je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, en t'écoutant, Anne, je m'aperçois que j'ai tendance à privilégier une certaine distance historique dans les époques que je vais aborder, qui pourrait être soit plus le 19e ou le 20e ou le 22e siècle. Un peu comme si je me disais, OK, alors on est dans l'instant, alors je suis en train de l'analyser, de le vivre. Je vais moins personnellement avoir tendance à écrire là-dessus. Alors, comme avec soit une distance dans la projection avec le futur et la SF, et puis, ou sinon, dans le passé, un peu comme si j'avais besoin de me documenter, documenter, puis d'aller à la bibliothèque et puis d'aller chercher des tonnes d'ouvrages dont certains vont être poussiéreux. Sinon, je vais prendre un certain recul par rapport à ça. Ouais, plus.
I absolutely agree that it's very difficult. I think you can always tell when somebody has started out with a very big idea, and the idea is the hero of the book, and sometimes they're wonderful, but that's not what I write. I don't ever know. I usually actually have my writing group tell me what my book is actually about, because what I'm doing is following a character through a setting that I find very interesting. And the interaction between the society that I pull out of my research and the background that I find aesthetically satisfying and the characters that I invent, that's the thing that gets me. And usually I really like the 19th century. I think the Siege of Paris is great. There was wonderful art that came out of it. There's some really great paintings and things that have come out of that and the Commune. And they're clearly the productions of people who were to some extent politicized by all of the things that were going on around them, and I had a character who was someone who came up from Carpentras and wanted to be an artist, and as she went through all of the adventures that I put her through, she becomes more and more politicized, and her art changes considerably, and that was the story I wanted to tell. But that's not a theme, that's a person interacting with their environment. And I think that the best science fiction and fantasy and historical fiction is about that in some way.
Hugo?
Oui. Je suis un peu mal à l'aise du coup parce que je suis toujours parti de l'idée en fait. Alors pas forcément de la thèse. La thèse, j'en ai fait une et ça m'a suffi quoi. D'ailleurs, je l'ai brûlée parce que j'en pouvais plus. Mais non, c'est vrai, on sort de symbole. Voilà.
La mienne, je l'ai mise à la poubelle.
Non, mais,
Encourage-moi un peu, je vais soutenir dans quelques semaines.
Ouais, mais courage, c'est bientôt la fin. Non, moi je pars toujours de l'idée vers le personnage. C'est peut-être ça d'ailleurs mon problème depuis le début dans mon parcours d'auteur. C'est que l'envie d'écrire, c'est d'abord l'idée d'écrire quelque chose, de changer de regard, de changer de référentiel, de faire un pas de côté. Et les personnages viennent après. C'est très, même Tancrède, hein, je veux dire, Tancrède, bien sûr qu'il y avait Tancrède, mais c'est parce que d'abord l'opéra s'appelait Tancrède. Donc du coup, c'est le personnage comme idée, si tu veux. Donc j'entends bien ce que dit Delia, et je pense que c'est tout à fait elle qui a raison, évidemment, bien sûr. Mais moi, je suis toujours parti du thème ou de là, ce que j'appellerais de la problématique, c'est-à-dire il y a des thèmes classiques. Des thèmes qu'on trouve partout, ça peut être le durcissement de la société, le durcissement des sanctions, la dictature, le totalitarisme, etc. Ou au contraire une société libérale, voire libertaire, de plus en plus libre, voire anarchiste. Et après il y a la manière dont on va problématiser, donc on va personnaliser finalement. Moi je suis toujours parti d'une idée que je personnalisais, une idée que je n'inventais pas évidemment, que simplement que je saisissais au vol à un moment donné, qui s'imposait à moi et que je personnalisais, et ensuite je la personnifie et ensuite je crée les personnages. Donc c'est toujours dans l'autre sens. C'est pour ça d'ailleurs que je suis plutôt un auteur de nouvelles malgré tout, même si j'ai fait des romans aussi bien sûr. J'ai coécrit avec Thomas D qui lui par des personnages et ô combien avec quel talent, et on faisait bien la paire d'ailleurs à ce niveau là mais c'est vrai que je suis plutôt auteur de nouvelles parce que je pars toujours d'une hypothèse, d'une idée, de quelque chose que je vais explorer. Et les personnages vont me servir à ça. Et pour revenir à l'histoire immédiate, l'histoire directe, je m'en méfie quand même. Je fais attention. Je pense qu'on peut écrire très bien des nouvelles sur les migrations, sur le statut des migrants, les difficultés. On pourrait bien écrire des nouvelles pamphlétaires, des nouvelles qui frappent, qui sont là comme des combats. D'ailleurs, je me rappelle de l'appel d'air hein, qu'on avait fait, qui était fait aux éditions ActuSF. On peut écrire des textes choc. Mais le problème, c'est que ces textes vieillissent, évidemment. C'est comme les éditos dans la presse. Un édito n'est pas fait pour être conservé. L'aberration de relire un éditorial d'un... Voilà. Un édito, ça se lit sur le moment présent. C'est comme un pamphlet. Et je pense que la science-fiction a une dimension pamphlétaire qu'elle peut avoir, qu'elle peut utiliser. Mais c'est des textes qui ne restent pas. D'ailleurs, c'est souvent dommage de ressortir des pamphlets et de les remettre comme ça à la lecture, parce que forcément, on finit par être ridicule à un moment donné, à 4 ou 5 ans d'intervalle.
Anne ?
Oui, tu peux donner un exemple concret quand tu dis tu pars d'une idée. Tu pars d'une idée pour créer le personnage. J'arrive pas à voir comment ça fonctionne en fait.
Je sais pas, par exemple, je pars d'un et si, d'une hypothèse. Alors pour l'Uchronie, c'est évident, hein, et si tel événement était autrement. Voilà. Mais par exemple, pour l'Origine des Victoires, c'est et si j'arrivais à expliquer la place inférieure des femmes dans la société, et si en fait elles n'étaient pas inférieures, mais au contraire supérieures qu'elles étaient.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Oui.
Et donc je pars de cette idée, et après je crée mes personnages, mes lieux. J'explore beaucoup des lieux aussi qui sont chers à mon cœur, des lieux dans lesquels j'ai grandi, des lieux que je veux mettre en avant, parce que on a souvent l'idée que tout se passe à Paris. C'est vrai que Paris est magnifique, hein, je n'en disconviens pas du tout, mais j'essaye de donner aussi plus de diversité, de mettre en valeur des personnages plus... des lieux, personnages peut-être plus locaux parfois, et ça j'assume aussi totalement cet aspect-là. Voilà, donc...
Alors c'est surtout dans la nouvelle peut-être, parce que je suis en train de penser. Moi j'avais fait une nouvelle qui n'a pas eu grand succès d'ailleurs, qui s'appelait Kim que nous sommes, et qui partait de l'idée d'un monde de femmes qui ne survivait qu'après une transition, à partir d'inter. Alors c'était trop compliqué, hein. Je crois que c'était ça qui a planté le texte. Donc les inter étaient des intersexes créés par des gens normaux gardés dans des réserves. Enfin des gens normaux, je veux dire des couples traditionnels hétéros, gardés dans des réserves et qui devaient produire un certain nombre d'intersexes. C'était en réaction à la situation de militants intersexes comme Vincent Guillot, à qui était dédiée la nouvelle. Et finalement, on a viré la dédicace à Vincent Guillot, mais c'était dédicacé à quelqu'un qui souffre dans son corps et dans sa chair d'être intersexe et d'être violenté par la société et par les médecins et par tout ça à un point inimaginable. Alors là, c'est typiquement la nouvelle à thème où c'est pas passé du tout. D'abord, c'est trop compliqué, cette histoire de gens qui avaient des... Enfin, ça n'allait pas. Mais je me demande dans quelle mesure on risque pas de déraper dans la semoule, si j'ose dire, ou dans le yaourt, ou dans le yaourt à la semoule, si jamais on est effectivement trop près d'une actualité brûlante. Ce que tu dis sur les éditoriaux. Je me pose la question par rapport à votre expérience. Est-ce que tu as eu cette expérience?
Un petit ajout, parce que ça m'interpelle de mentionner les réserves également. Lorsque j'ai écrit sur le présent, je m'aperçois en y réfléchissant que je vais avoir tendance à prendre une distance territoriale. Alors, aller peut-être plus dans des huis clos, dans des réalités qui vont peut-être être complètement inventées. Alors, à ce moment-là, c'est une façon de réinventer un présent qui n'est pas exactement le nôtre en le situant dans des ailleurs qui vont être peut-être plus dans l'enfermement, dans huis clos. On se rappelle que j'aime beaucoup le fantastique. Alors ça aussi, ça participe du même mouvement.
Une petite question qu'on a déjà abordée ce matin, c'est la floraison d'un certain nombre d'uchronies, hein, comme une mode ces derniers temps. Est-ce que vous auriez une explication à ça, puisque c'est vraiment en lien direct avec l'histoire pour le coup? Autant d'uchronies, autant de succès. On se souvient du Maître du Haut Château adapté par Netflix, par exemple, ou des choses comme ça. Qui veut répondre? Vas-y, Hugo.
Oui, alors effectivement, alors c'est difficile parce que là aussi, bah, c'est donner une explication qui va paraître rationnelle et qui est peut-être totalement subjective. Hein. Mais bon, c'est vrai que l'Uchronie est à la mode. Est-ce que c'est véritablement une mode? Ça fait maintenant quand même plus d'une quinzaine d'années, hein, peut-être même 20 ans. Oui, au bas mot, 20 ans, puisque dans les années 90, déjà, il y avait pas mal d'Uchronie qui se publiaient, Johan Elliot et d'autres. Hein, bon. Donc l'Uchronie, c'est un jeu spéculatif sur l'histoire. C'est une manière de nous réapproprier l'histoire. Donc sans faire trop d'analyse comme ça, essayant de trouver des raisons, je pense que ça va aussi sur l'incertitude du monde aujourd'hui, qui peut, nous semble-t-il, basculer soit dans un monde absolument horrible, absolument négatif, absolument fermé, soit au contraire dans un monde merveilleusement ouvert, merveilleusement différent de celui que nous avons aujourd'hui. C'est comme si nous étions au seuil d'un basculement. Alors il y a une sorte d'angoisse probablement qui fait que, comme le disait Karine Goblet ce matin, eh bien on se replie peut-être un petit peu, on se retrouve dans l'Uchronie, on retrouve une manière de contrôler ce qu'on a l'impression qu'on ne contrôle plus. Donc peut-être que c'est l'une des explications, peut-être aussi que le désir d'histoire dont je parlais tout à l'heure est plus fort aujourd'hui. Les gens cherchent du sens, l'Uchronie donne des sens, certes des sens imaginaires, mais ça permet de dire, si je peux trouver un sens dans un récit uchronique, alors je peux peut-être trouver un sens dans le monde d'aujourd'hui et me sentir moins, finalement, dépossédé de mon destin, de ce qui va m'arriver à l'échelle de la société. Donc je pense qu'il y a de ça aussi. Et puis ce matin, je te disais, peut-être pas les mêmes personnes qui étaient là, qu'il y a quand même la première anthologie d'Uchronie publiée en Angleterre hein, en 1931 par John Collins Squire, qui s'appelait « Lapses into Imaginary Story »,« Saut dans l'histoire imaginaire »,« If it had happened otherwise », si ça s'était passé autrement, avec des très grandes plumes comme Winston Churchill, André Mauroy et bien d'autres. Bon, les années 30, on sait ce que c'était. C'était les années entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, en gros, mais avec beaucoup de richesses aussi culturelles. Alors, je ne dis pas qu'on est à la veille d'une guerre mondiale, on ne va pas stresser les gens, mais peut-être que l'Uchronie, aujourd'hui, a réacquis ses lettres de noblesse parce qu'elle nous permet de nous réapproprier notre propre histoire, notre propre destin.
Je dirais tout à fait l'inverse. J'ai l'impression, enfin, en même temps, la même chose comme d'habitude. Hein, c'est-à-dire, j'ai l'impression que l'Uchronie... D'abord, je m'aperçois que je fais de l'Uchronie. Je ne savais pas. C'est très intéressant à découvrir. Et du coup, je me dis qu'il y a quand même une fonction critique très forte. L'histoire étant un tissu de mensonges et l'historiographie un crime impuni, peut-être finalement, l'Uchronie permet de mesurer à quel point le discours qu'on nous balance, les canons de toutes sortes dont on on nous farcit la tête. Ce système de grands hommes, grands livres, grands machins, tout ça, ça finit par pouvoir être critiqué en profondeur. Il me semble que c'est là le rôle de l'Uchronie. Partons dans un monde réputé, reconstruit, imaginaire, construit sur d'autres bases historiques, et on s'apercevra à quel point sont fragiles nos soi-disant bases historiques. Ça revient exactement à ce que tu disais au début, soit dit en passant.
Ariane ?
Oui, alors Hugo a extrêmement bien répondu à la question. Et alors, je vois ça aussi, cette popularité-là, comme, et puis Anne également, comme un écho à l'inquiétude ambiante qui va justement aller de l'avant avec cette popularité qu'on peut avoir de l'Uchronie. Et j'inclus de mon côté de l'Atlantique également. C'est dans l'air du temps, comme on dit.
Delia ?
I never really liked alternate history, and I'm not actually sure why. I think because I'm aware when I'm reading it how much it displays the social prejudices of the person writing it, possibly even more than other forms of fiction, because they are making in some way a their own utopia. It's also the thing I've got against utopias, is that it is one usually man's utopia, but it's still a much more singular vision than some other kinds of fiction can be. It's also possible that I am just not logical enough, nor do I know enough about any particular point in history where I would, with any kind of confidence, be able to extrapolate from the one thing that I had changed. So I find it an interesting endeavor frequently, but I just, it's not something, it's something that kind of repels me, not in a disgusted sense, but in a I bounce off of it sense.
Est-ce que on arrive à la fin de cette table ronde? On a dit beaucoup de choses sur l'histoire, quelques trucs sur l'enseignement de la musique aussi. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser, une ou même une seule question à poser à nos auteurs? Oui. Attendez. Gérard Klein.
Ça m'étonne pour l'apprentissage de la guitare, c'est facile.
Oui, en ce qui concerne l'Uchronie, j'étais justement en train d'en parler à ma voisine. Ce qui me frappe, c'est que son succès, quiconque qui se poursuit, semble-t-il, remonte en effet, comme le disait Hugo, il y a une quinzaine d'années à peu près, peut-être même 20 ans, une vingtaine d'années. Or, pour moi, ça correspond, de la part du public, sans porter aucun jugement sur l'avenir réel, ça correspond de la part du public, en France, mais pas seulement en France, à une fuite, à un refus de l'avenir. Et ça, je le sens en tant que socio-économiste, en tant qu'éditeur, et par toutes les pores de ma peau. Donc il y a une espèce de repli, il y a un refus de l'avenir, et il y a une espèce de repli sur des passés réévalués. Je pense que c'est un phénomène très profond, à certains égards inquiétant, parce qu'une société qui se distancie, enfin qui refuse son avenir, société qui va mal. C'est la même chose aux États-Unis. J'en ai souvent parlé avec mes collègues et amis américains, Silverberg, etc. C'est la même chose.
L'argument a du poids.
Juste pour rebondir sur ce que dit Gérard, on est d'accord, évidemment, mais je serais plus optimiste en me disant que c'est aussi une manière de se réapproprier notre histoire qui n'est finalement qu'un discours, donc prendre conscience de nouveau que l'histoire n'est qu'un discours, qu'une manière de se représenter le monde et notre société. Du coup, ça réouvre les portes de l'avenir à terme. C'est-à-dire que l'avenir qu'on peut attendre n'est peut-être pas celui qu'on nous promet unique, comme une eschatologie tracée, la fin de l'Occident, la fin... Voilà. Peut-être que ça pourrait permettre ça, une génération de citoyens accoutumés à l'idée d'interroger nos certitudes et donc peut-être de se réapproprier le futur. Mais bon. Ouais.
Gérard Klein, un optimiste impénitent. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser à nos invités? Oui, là-bas.
Bonjour. Oui, ma question, elle est toute simple. Du coup, là, on parle de l'histoire et de l'histoire qui se déroule. Tout à l'heure, Delia Sherman parlait de l'histoire qu'on subit. Est-ce que finalement le fait d'écrire de la fiction historique, ça permet pas aussi de replacer l'individu au centre de l'histoire et d'en faire un acteur et de se rendre compte qu'on est tous acteurs de notre histoire?
Alors, qui veut répondre? Replacer l'individu au centre de l'histoire.
C'est croire acteur ou c'est croire actrice. Oui, dans mon cas, ça marche. Hein. Faire tourner l'histoire autour de quelques personnages pour se réapproprier des forces essentiellement critiques contre les canons ambiants et les idées reçues. Je crois qu'effectivement, c'est quelque chose que je ressens très fort. Et j'adhère tout à fait à ce que vient de dire Hugo. C'est marrant, on est vraiment les deux faces d'une même médaille.
Ariane?
Oui, même chose, mais je dirais replacer les individus au centre de l'histoire, parce qu'on travaille forcément avec plusieurs personnages, et également, donc l'individu qui vient de la somme de tous ces personnages, alors la société, et puis plus personnellement, eh bien, les lieux qui sont comme un grand personnage, alors que tout ça étant intrinsèquement lié.
Est-ce qu'on a le temps pour une dernière courte question? Est-ce que quelqu'un en a une? Une question? Eh bien, écoutez, on va remercier nos invités. Ils sont tout de suite en dédicace. Merci à vous.